7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment lutter contre le changement climatique sans déprimer ? L'écologie est le royaume de la mauvaise nouvelle. Et cette semaine, les scientifiques nous alertent. La fonte de la banquise, les pluies diluviennes en Afrique, incendies ou ouragans en Amérique. Tous ces événements climatiques extrêmes sont plus rapides, plus importants que prévu. À cela s'ajoute la pandémie de Covid, la récession économique, le chômage, l'inaction politique. Et pourtant, il existe des militants pour le climat qui estime que l'on peut vivre autrement et être heureux, avec des initiatives positives, locales, reproductibles, qui luttent contre le changement climatique. Nous allons en parler avec nos invités pour nous faire du bien. Et chez vous, les voisins et les voisines, parlez-nous d'initiatives positives. Vous pouvez nous téléphoner dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Et vous pouvez bien sûr aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, sur Twitter, et puis vous abonner sur notre compte Instagram. Je vous présente nos invités. Laure Noala, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Vous êtes journaliste. Justine Davas, bonjour.
Bonjour.
Militante, d'ailleurs vous l'êtes toutes les deux. Guide des mouvements zéro pour un futur enfin désirable. Toutes les deux, vous publiez aux éditions Tana, un éditeur engagé. Et vous allez nous parler de tout ce qui peut nous rendre heureux dans un autre monde. On avait bien dit d'ailleurs que le monde allait changer après le Covid.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
À quoi ressemblera le monde de demain ?
Un monde après le Covid.
Que pouvons-nous changer dans nos attitudes ?
Aujourd'hui, c'est pas très difficile de construire un monde meilleur après le coronavirus.
J'espère qu'on le vivra pas comme avant.
Le monde d'avant était dangereux, inéquitable, polluant, injuste et tellement fragile qu'un virus l'a fait s'écrouler.
Mes espoirs sont pour les actions de coopération et de solidarité pour la survie des plus vulnérables parmi nous. En faveur de l'égalité et de l'écologie.
Tout le monde avait bien dit, plus rien ne sera comme avant, et pourtant, alors qu'on n'en a pas fini avec la Covid-19, la montée du chômage, on a l'impression que ça paralyse quand même tout changement de paradigme sur la croissance économique. Comment vous voyez les choses, toutes les deux, Laure Noala et Justine Davas, Laure Noala ?
Moi, j'écoutais les interventions et je me disais, tiens, le monde d'après, il est devenu juste, équitable, dépollué. Non,
c'est ce qu'on s'était promis.
Ouais, non, mais c'est ce qu'on s'était promis, sauf que y a tout un système encastré à désencastrer et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis surtout, on n'a pas tous la même définition du monde d'après. Donc voilà, il me semble que ça va être le monde d'avant encore un peu un certain temps. Essayons de faire en sorte qu'il ne soit pas pire.
Quoi. Justine Davas, vous êtes d'accord que c'est quand même l'emploi qui est au centre des préoccupations aujourd'hui, avec la crise économique qui est partout ?
Oui, sans doute. Et puis moi, j'ai vu un changement. Là, ces derniers jours, j'ai eu accès à une télé, j'ai regardé les publicités. Mais alors, tout le monde a changé. Hein. Tout le monde est devenu écolo, tout le monde a mis un petit logo vert sur son produit, tout le monde se préoccupe du sort des Ouïghours tout d'un coup. Alors, tout le monde, c'est bon, on n'a plus besoin de faire cette émission parce que le monde a changé.
Ouais. Comment ça s'appelle ?
La télé le dit.
Ce que vous décrivez, tout le monde est devenu écolo, greenwashing.
Oui, c'est ça, c'est du greenwashing.
On peut expliquer ce que c'est le greenwashing ?
Greenwashing, c'est un coup de peinture verte sur
un produit qui est resté pareil.
C'est ça, une voiture, un lait en poudre, que sais-je.
Et puis ce sont de beaux discours politiques également. Par exemple, le président Macron qui nous dit qu'il organise une convention citoyenne sur le climat, qui va mettre en œuvre 100 et quelques mesures. Et au final, il nous traite d'amiche 2 mois plus tard. Voilà, c'est du greenwashing, ça.
Ah bah tiens, justement, vous le faire écouter, le président Macron. Voici ce qu'il disait à propos du débat qui est quand même, faut bien dire, largement hystérisé sur la 5G entre les partisans du complot et les autres.
La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Alors,
C'est vrai que le débat, quand même, il est en train de se radicaliser des deux côtés, ou pas, sur l'environnement, Justine Davas.
Oui, enfin, après, là, sur la 5G, est-ce que...
On ne va pas faire l'émission sur la 5G,
ouais. Mais... Est-ce que la 5G est une innovation? Je ne sais pas. Enfin, ça veut dire qu'on va multiplier le nombre d'antennes, on va multiplier le nombre de câbles, on va demander à chacun de racheter un téléphone portable, et on sait quelles conséquences ça a sur l'environnement. Et il faut des minerais, et il faut exploiter encore plus d'hommes, d'enfants et de femmes pour aller chercher tout ça. Donc, pour moi, l'innovation, non, elle n'est pas dans l'exploitation des êtres humains. Enfin...
Moi, je ne tomberai pas dans le panneau des mini-phrases de présidents anti-écolo à 2 ans d'une présidentielle. Parce qu'on nous l'a fait très régulièrement, à chaque fois. L'environnement, ça commence à bien faire, nanana. Et là, maintenant, c'est les Amish. Bon, franchement, c'est pour rassurer un électorat. Voilà, et je pense que le président n'a jamais été particulièrement vert. Bien qu'il soit jeune, c'est déjà un jeune vieux, en fait. Parce qu'il fait vraiment partie du monde d'avant, lui. Alors, ça, c'est clair. Voilà, donc moi, je lui souhaite bonne route. Bonne chance, et nous on va faire ce qu'on a à faire.
Alors en tout cas, en France, quel que soit l'âge, 85% des Français se disent inquiets face au changement climatique. C'est un sentiment qui est quand même globalement assez partagé et qui traverse les générations. Puisque les pouvoirs publics ne prennent pas les bonnes décisions ou pas de décisions du tout, puisque les industriels, l'économie mondiale refusent tout changement de cap. On l'a vu avec notamment le récent rapport d'ONG sur les compagnies pétrolières qui refusent de freiner l'exploration. Vous dites, comme beaucoup de militants écologistes, vous dites bah, tout partira d'en bas. Ça va prendre beaucoup plus de temps quand même ou pas, Laure Noyla?
Moi, je dirais que ça ne se compare pas, ça s'additionne, ça va partir d'en bas. Et il faut, enfin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux d'action. Il y a l'action individuelle, mais celle-ci, elle est bien sympathique, mais elle ne gère pas tout l'ensemble du système, elle ne désingue pas tout l'ensemble d'un système. En tout cas, elle ne désincarcère pas forcément le consommateur ou le consommateur ou le conso-citoyen du système dans lequel il évolue. Donc, action individuelle, ok. Derrière, on la crante sur une action collective politique et puis on essaye de faire pression médiatiquement parlant pour que on réponde aux questions qu'on pose, quoi. Voilà. Et si on ne pose pas les questions, si on ne met pas les pavés dans la mare des dossiers qui nous intéressent, à ce moment-là, le politique s'en fiche et s'en contrefiche. Donc il faut jouer sur plusieurs niveaux d'action.
Ça veut dire, Justine Davas, que chacun à son niveau doit faire quelque chose.
Chacun à son niveau doit faire quelque chose. Et moi, je suis pas, je défends pas la politique des petits pas. Je dis pas dans le livre que ça ne viendra que d'en bas. Au contraire, il y a plein de choses que le citoyen ne décide pas. C'est pas nous qui décidons des politiques de transport, des politiques d'agriculture. Et on a besoin que notre modèle de transport et d'agriculture change. Donc, on a besoin de faire le forcing et pourquoi pas de se présenter aux régionales, aux européennes. On a besoin de... voilà, il y a différentes façons de militer. Ça peut être en se canassant devant une grille, en se peinturant le corps, ou en faisant du lobbying citoyen, même si ce terme peut être critiqué. Mais...
Ou en consommant quand même autrement, parce que vous appelez
en consommant
ça,
autrement, ça, c'est la base.
Guide, c'est vraiment un guide pratique là-dessus, quand même.
C'est aussi sur la consommation, mais je dissémine un peu des idées de militantisme. On peut créer un média alternatif, ça fait partie du militantisme. Oui. Oui.
Alors, consommer moins et mieux, ça demande du temps et de l'argent, c'est ce qu'on entend souvent. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mélanie. Elle a 40 ans, 2 enfants en bas âge. Cette mère célibataire trie ses déchets, prend les transports en commun, surveille sa consommation d'eau et d'électricité. Et elle est pourtant au bord du burn-out écologique. Elle s'est confiée au micro d'Inès Edel Garcia.
Sur les réseaux sociaux, principalement sur les médias traditionnels, moi je vois de plus en plus et quasiment tous les jours des recettes pour faire votre déodorant, des recettes pour faire votre lessive, des recettes pour faire votre pain. Un jour on aura peut-être des recettes pour faire l'essence de voiture, enfin à un moment donné ça va trop loin. Déjà, moi j'ai pas le temps, mais en plus j'ai beaucoup d'interrogations sur le fait que même si toutes ces petites choses mises bout à bout, toutes ces fourmis invisibles que nous sommes, on essaye de faire des petites choses. Je m'interroge quand même sur ce que ça peut rapporter, même dans quelques années, versus des énormes industries partout dans le monde qui polluent H24 et qui, elles, ne font rien. Le jour où elles ferment, moi, je suis d'accord pour essayer de faire mon pain, mon déo et mon savon. Mais honnêtement, me flageller, me culpabiliser, me prendre une pression un petit peu de partout, même si elle est légère, mais c'est insidieux tous les jours, je ne suis pas d'accord. d'abord les entreprises et les grosses industries et les États qui prennent des décisions. Et effectivement, je pense que les invisibles, les lambda, les habitants partout dans le monde, ok, chacun fera son effort.
À votre avis, est-ce qu'il y a un risque que la transition écologique, finalement, opère une forme de retour en arrière en termes de droits des femmes?
Je trouve que tout ce qu'on nous propose de faire en termes d'écologie en ce moment, enfin pas tout, mais pas mal de choses, pour moi c'est une régression totale. Aller faire son propre savon, son gel douche, son déodorant, sa lessive, laver ses couches, etc. Ça pour moi c'est un mystère. Il y a quelques années quand les couches jetables sont arrivées, c'était un soulagement pour toutes les femmes de France et de Navarre. Et là on revient en arrière en fait. Je trouve que pour une femme... aller se refaire des lessives, et puis laver à la main des couches. J'ai l'impression de revenir à l'époque de ma grand-mère ou de mes arrière-grand-mères, qui, elles, ont vu les couches jetables arriver pour leurs petits-enfants, et c'était un bond en avant, en fait. Et pas que les couches. Enfin, quand on parle de protection hygiénique pour les femmes, les tampons, etc., ça a été aussi une libération. Et encore une fois, on revient en arrière avec d'autres méthodes. Je dis pas qu'il faut pas ces méthodes-là, je dis que ça met une injonction de plus sur déjà tout ce qu'on a à faire à la maison. Entre l'éducation, le travail, le ménage, la cuisine, s'occuper de soi, faire du sport, rester curieuse, reposer, voir des amis, essayer de garder un amoureux, par exemple. Mais je pense sincèrement que se rajouter une charge écologique, pour moi c'est une charge mentale supplémentaire. Je pense pas que ça aille dans le bon sens. Ou alors il faut mieux répartir avec les hommes.
Le confinement a placé la barre assez haut en termes de fait maison, d'écologie, puisqu'on était plus présent à la maison et qu'on pouvait plus faire attention à ces enjeux-là. Vous arrivez à tenir ces exigences encore aujourd'hui ?
Oui et non. On est revenu à un rythme où les enfants sont à l'école, certes à la cantine et tout, mais moi je reprends le travail comme avant le confinement. Donc très honnêtement, même s'il y a eu beaucoup de fait maison pendant le confinement, aujourd'hui on va dire que le fait maison ce sera un peu plus pour les week-ends, mais pas trop la semaine.
Alors, que vous inspire ce témoignage, Laure Noala? Vous avez réagi pendant qu'on diffusait.
Oui, bah non, cette jeune femme, je comprends complètement l'histoire de la charge mentale, etc., avec les petits gestes. Bon, on peut dire un truc très concret, hein, c'est que les petits gestes et les changements de comportement individuels, ça représente à peu près 25% de la totalité, un quart, donc de la totalité du problème, par exemple, si on sait qu'on doit réduire. En fait, ça dépend des...
Vous voulez dire un quart des émissions de gaz à effet de serre?
En fait, on doit réduire nos émissions de CO2, on doit les diviser par 6, pour rester en dessous de la barre des plus 2 degrés. D'accord ? Donc on est à 12 tonnes de CO2 en France en moyenne, on devrait arriver à 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Donc ça veut dire une division par 6 d'ici à 2030, 2040, 2050. Bon,
Donc diviser, il faut changer diviser sa par façon 6, de vivre. Individuellement, voilà. On ne peut pas faire autrement, c'est ça ?
Diviser par 6 et le faire à niveau individuel, ça ne représente qu'un quart du problème. Voilà. Et les 75% autres, c'est effectivement les grands ensembles dont parlait Justine tout à l'heure, les politiques des infrastructures de transport, d'infrastructures.
Mais un quart, ce n'est pas négligeable.
Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus le.
Voilà. Totalité, donc, ouais.
Après, la personne, elle a un problème visiblement de manque de temps, tout simplement.
Une femme, c'est une femme. Et c'est vrai que c'est beaucoup les femmes qui sont, on va dire, qui ont en charge la gestion du quotidien.
Mais ça, ce n'est pas un problème écolo, ça, c'est un problème féministe. Enfin, ça fait partie, mais ça, c'est le. La transition écologique, c'est un projet de famille. On n'est pas en train de nous dire, les écolos, vous, les femmes, vous devez tout faire. Il y a un problème de temps, mais il y a un problème de se réapproprier le problème en tant que famille.
7 milliards de voisins, vous écoutez RFI, comment être écolo sans angoisser ou déprimer? Alors maintenant, vous, quelles sont les pistes que vous proposez? Quelles sont les actions, les mouvements qui rendent beaucoup plus heureux et qui, évidemment, agissent sur les leviers que vous avez cités? C'est forcément rouler plus propre, trier ses déchets et limiter ses déchets, supprimer sa consommation de viande, manger local, consommer beaucoup moins en général, beaucoup plus local, éviter le gaspillage alimentaire. Comment on fait concrètement et pourquoi vous vous dites forcément changer de mode de vie, ça rendra plus heureux, en tout cas les habitants des pays riches?
Alors, tout ce que vous avez dit, oui, on le recommande, je pense, dans nos livres respectifs. Mais pour rebondir encore une fois sur le témoignage d'avant, on n'est pas obligé de tout faire soi-même. On n'est pas obligé de faire son pain. On peut aller dans une boulangerie. On n'est pas obligé de faire son savon. On peut l'acheter en vrac, sans emballage. La réappropriation des compétences, ça rend heureux. Savoir qu'on peut faire soi-même avant un effondrement ou quel qu'il soit, le Covid en étant un. Moi, je pense que ça rend heureux de se rendre compte qu'on peut faire des choses, qu'on se réapproprie une liberté de faire et de penser différemment. Après, tu me diras ce que t'en penses, mais sur tous les domaines...
J'aimerais surtout que vous nous donniez des pistes plus précises de changement de vie, de projets associatifs, leur nom à la...
Alors, attendez, moi, dans le bouquin, donc comment rester écolo sans finir dépressif, c'est qu'à un moment de... C'est sans finir dépressif, pas sans devenir dépressif, parce que, remettons bien le truc quand même sur la table, ça rend quand même assez malheureux, ce qui se passe. Partout dans le monde, on voit les effets des changements climatiques, on voit les effets de l'effondrement des écosystèmes, et on voit aussi les effets de la présence humaine, quel qu'il soit, sur les habitats naturels, etc. D'ailleurs, le Covid est une réponse directe de ça, quoi, une conséquence directe de ça. Donc déjà, retrouver l'endroit, enfin, aller au bout de toutes ces émotions que ça va générer, cette tristesse, cette peur aussi.
Comment on renverse cette vapeur pour la transformer en énergie positive ?
On traverse ces émotions. Là, on les accepte, on se laisse traverser par la peur, par la colère, par l'impuissance, et on file en dépression. Mais c'est pas pour y rester. Attendez, c'est pas pour y rester. C'est-à-dire, il faut vraiment acter le fait que ça va mal se passer quand même. C'est plus le futur dont on parle, c'est le foutu maintenant. Donc on va accepter ça. Une fois qu'on accepte, alors, le processus d'acceptation est fondamental. Et puis c'est le plus dur, je pense, à faire, c'est accepter ça. Une fois qu'on a accepté, ne pas rester seul, se réunir. Alors se réunir, ça peut être pour un potager partagé, ça peut être pour une action toute bête de mini-grève climat dans sa ville ou à l'école. Ça peut
mini
être...
Mini-grève climat, c'est-à-dire ?
Oui, mini-grève climat. Bah, on n'est pas tous Greta Thunberg, on peut pas tous emmener 400 000 personnes dans les rues d'une mégapole européenne. Mais on peut, au collège, au lycée, à l'école, dire aujourd'hui on ne travaille pas pendant une heure parce qu'on aimerait mobiliser les gens... Par exemple, partout dans le monde, dans n'importe quelle école, on peut faire ça, se réunir. Pour les plus grands, on peut se réunir et commencer à monter une association. Et se dire, bah voilà, c'est la problématique des déchets qui m'intéresse. Donc on va faire un waste walk, ce qu'on appelle le ramassage de déchets collectif. On se fait ce qu'on appelle des petites battles, des petites batailles comme ça. On prend la photo du lieu avant et le lieu après, on met ça sur les réseaux sociaux, et ça donne vachement de joie, de plaisir. Il y a même eu des petites battles comme ça, d'un quartier à l'autre en France, où voilà, il y a une espèce de challenge, de défi qui sont mis
faire
en place.
Faire briller sa ville, le hashtag faire briller sa ville, qui vient de Marseille d'ailleurs, qui vient des quartiers de Marseille.
Ouais, et qui consiste à...
Alors, ah bah, nettoyer sa ville, c'est une petite fille de 6 ans, 6-7 ans qui a lancé ça.
Ouais.
Voilà, après moi je trouve qu'il y a aussi, on parle beaucoup d'écologie extérieure, des petits gestes, etc. Mais il y a beaucoup d'écologie intérieure aussi. Quand on n'est pas bien par rapport à tout ça, essayer de se centrer, de s'ancrer et de renouer avec la nature, de méditer un petit peu, de retrouver des rituels, de donner ressentir de la gratitude pour cette planète miraculeuse.
Alors quand on vit en ville, c'est pas évident, hein, notamment pour les jeunes générations, parce que vous consacrez quelques pages à ce problème, le manque de nature en ville. Vous dites que les enfants n'ont plus de contact avec la nature, notamment avec l'école, les modes de garderie qu'ils ont. Vous citez un chiffre assez hallucinant. Au cours des 30 dernières années, la superficie du territoire où les enfants peuvent circuler sans la supervision immédiate de leurs parents a diminué de 90%. Et seulement un tiers de la population urbaine des États-Unis vit à une distance raisonnable d'un parc. Donc, rester en contact avec la nature, en tout cas prendre conscience de cette nature qui se transforme, c'est pas évident quand on vit au milieu du béton.
Et voilà des choses que les individus tout seuls ne peuvent pas faire, mais qu'en revanche, l'aménageur de parc public, l'aménageur urbain, lui, doit s'intéresser à ça et remettre de la nature dans les villes. Donc vous imaginez un peu les enjeux, c'est des développements sur 20, 30, 40 ans. Et ce qu'on voit dans nos villes, c'est qu'on est plutôt en train de couper des arbres pour mettre des super places, des super forums de temples de consommation. On coupe les arbres, puis après on les replantera, puis voilà, on s'en fiche un peu. Donc oui, non, je dis pas que c'est simple, hein, mais l'accès à la nature, si vous voulez, ce qui est marrant, marrant, c'est que le cerveau est assez bien fait. Vous regardez un film de nature, ça vous apaise, voilà, tout autant qu'aller vous promener dans la nature. Mais je ne devrais pas dire ça, parce que c'est les écrans, c'est la consommation numérique, etc., etc. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge.
Une action individuelle, vous en voulez des exemples? Eh bien, simplement changer de banque. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et qu'il faut de l'argent pour aller forer en eau profonde, pour aller chercher du pétrole, même sous la banquise qu'ils font, etc. Et donc, les gens souvent ne savent pas que malgré eux, l'argent qu'ils placent en toute confiance dans une banque est utilisé pour investir dans ces projets-là. Et donc, simplement, en tant que citoyen, retirer son argent des banques qui sont classées, il y a des classements qui sont faits par les Amis de la Terre, notamment l'association L'ONG. Les Amis de la Terre, et qui pointent du doigt les banques les plus sales, écologiquement parlant. Et donc, sortir son argent de là, c'est un petit geste, ça prend 10 minutes.
Ouais, parmi lesquels la Société Générale et BNP Paribas, d'ailleurs.
Voilà, je ne voulais pas citer, mais très, si vous le faites.
Très connues, elles sont citées dans vos livres, donc de toute façon. Alors évidemment, il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, moi je ne suis même pas bancarisée, c'est le cas sur le continent africain. Là aussi, aujourd'hui, on sait plus clairement que ce sont les riches qui sont responsables du changement climatique. À l'échelle de la population mondiale, les 1% les plus riches émettent deux fois plus de gaz à effet de serre que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et on va retrouver d'ailleurs ce même clivage, cette même distorsion à l'échelle d'un petit pays comme la France. On a les 10% les plus riches qui sont responsables de plus d'un quart des émissions cumulées de CO2. Donc, c'est-à-dire presque autant que les 50% les plus pauvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les décideurs riches qui doivent prendre des décisions, mais aussi les consommateurs riches, leur noix-là.
Ah mais complètement. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait que, idéalement, chaque humain sur Terre devrait émettre 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Bon, moi, j'y suis pas. Et pourtant, je suis une super écolo en France. Mais c'est sûr que le problème du Burkinabé qui nous écoute là maintenant, c'est pas du tout d'atteindre les deux tonnes de CO2. On n'y est pas du tout.
Vous y êtes pas. Pourquoi, d'ailleurs? Est-ce que vous avez fait votre calcul ou pas, alors?
Ah ouais, moi, je fais mon bilan carbone tous les ans. Ouais. Ouais, ouais,
et qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ça? C'est le système ou...
Il y a quelque chose d'assez incompressible qui est le système. Ouais, ouais. Lequel je
paradoxalement, d'habiter à la campagne, c'est qu'on utilise beaucoup sa voiture, par exemple.
Alors, je vis à la campagne, mais j'ai un vélo. Je vis dans une campagne d'une ville de 10 000 habitants, donc j'ai un vélo, je viens en train, mais le train c'est du nucléaire. J'ai quand même des déchets non compressibles, j'ai des vêtements, je suis quand même à 6 tonnes de CO2, donc c'est pas mal. J'ai arrêté l'avion, j'ai pas fait d'enfant. Tiens, voilà, j'ai pas fait d'enfant, mais je vais pas conseiller ça. Mais n'empêche que l'éducation, le planning familial, l'éducation à la contraception, etc., etc., ça fait partie d'un combat anti-CO2, quoi. Ça aussi, c'est
mais important. C'est vrai que jusque-là, on disait beaucoup que les effets du changement climatique, bon, tout les pays les plus pauvres, mais que dans le fond, les pays émergents sont aujourd'hui pointés du doigt comme les responsables, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, grosso modo.
Je trouve que c'est facile de taper sur la Chine quand, en fait, c'est l'industrie du monde, en fait. Enfin, d'où viennent ces micros, d'où viennent ces ordinateurs, ces chaises, etc. Donc, oui, on peut taper sur les Chinois. C'est sûr que d'un côté, ils étouffent la planète, mais en même temps, c'est l'usine du monde. Donc,
50% ou 40% des émissions du CO2 de la Chine sont liées aux exportations. Donc, nous sommes co-responsables des émissions de CO2 de la Chine.
Nous sommes, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe,
tous ceux qui importent des produits chinois, tous ceux qui importent des produits chinois, et le continent africain, par ailleurs, est le lieu ressource de prédilection de la Chine pour après aller construire, fabriquer tous les éléments que nous, on va importer. Donc oui, on a une responsabilité différenciée. C'est clair que l'Europe, les États-Unis, en premier lieu, depuis tout temps, depuis les premiers développements industriels, sont responsables des émissions en priorité.
Vous nous parlez d'initiatives positives qui luttent contre le changement climatique. On va y revenir un petit peu plus en détail à la lumière de ce qui est faisable au niveau des individus. Alors, il y a la consommation, il y a le regroupement pour des actions positives, et puis il y a aussi, c'est vrai, le militantisme, vous en parlez. Et vous pouvez bien sûr nous appeler, les voisins, les voisines, si vous menez des actions positives pour lutter contre le changement climatique, au 33 7 64 45 51. 41, c'est le nouveau WhatsApp. Depuis quelques semaines, il faut le rentrer dans vos contacts. 33 7 64 45 51 41.
Aïe, 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 a quitter la mer, savoir pourquoi elle rejetait tout. Elle m'a dit, rien ne m'appartient, cela vient de chez vous. Je consulte les rivières, savoir pourquoi cette fat couleur. Elles m'ont dit, pas responsable de leur triste malheur. Elles m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin, mais qu'elle n'y était pour rien. On vit au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Je vais laisser quelque chose après moi. On construit à grands pas, sans savoir où l'on va. Namadunya bonya. Consulte le désert pour savoir ce qu'il en pensait. J'ai peur pour la nature, auriez-vous de bonnes nouvelles? Je consulte les étoiles, savoir si on ne s'est pas trompé. On a peur pour la nature, auriez-vous de bonnes nouvelles? Elles m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin, mais qu'elle n'y était pour rien. On vit au jour, sans se soucier du lendemain. Je vais laisser quelque chose après moi. On construit à grands pas, sans savoir où l'on va.
Quand l'écologie nous inspire et surtout inspire Tikkun Jaffa Coli chez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI. Comment rester écolo sans finir dépressif? C'est votre livre, Laure Noala, qui recense beaucoup de pensées positives. Vous le disiez, il faut accepter le changement, il faut accepter que ça va mal, mais qu'on va s'en sortir. Et Justine Davas, vous publiez le guide des mouvements zéro pour un futur désirable. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Un petit message laissé par une auditrice au Bénin.
Bonjour 7 milliards de voisins, moi c'est Samirat Chabé Mana, je vous appelle du Bénin, je suis à Parako. Comment lutter contre le réchauffement climatique? Je pense que c'est un peu plus difficile au niveau personnel. Par exemple, dans ma maison, je n'utilise plus les sachets non biodégradables. C'est vrai que sur le marché, c'est difficile de les distinguer, ces sachets. J'utilise tout juste mon panier. C'est un sac fait en tissu que je peux réutiliser toutes les fois que je veux. J'en ai plusieurs, j'en ai trois. Parce que j'ai remarqué sur le marché que à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose, même si c'est à 100 francs, on vous donne un sachet. Vous pouvez faire 1000 emplettes, vous avez 1000 sachets, ce qui n'est pas du tout écolo. L'autre chose que j'ai eu à faire, c'est de m'abonner à une structure de collecte d'ordures. C'est vrai que la municipalité a décidé que tous les ménages s'abonnent systématiquement. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que dans ces déchets ménagers-là, il faut trier déjà. Il faut aussi dire que pour vivre écolo, j'ai essayé quelque chose et je ne pense pas que tout le monde puisse le faire. J'ai de la tomate qui est en train de pousser. J'ai un manguier, j'ai un citronnier et dans le commerce, on sait ce qu'on mange. C'est des pesticides qu'on utilise tout le temps. Donc, si vous avez un peu d'espace, faites de l'économie familiale pour vivre mieux. Ça ne va pas combler vos besoins, mais ça rend heureux.
Laure Noala, vous avez suivi pas mal de mouvements, de projets autour de l'agriculture, puisque vous habitez maintenant à la campagne. Vous-même, vous avez d'ailleurs un peu découvert. Vous avez acheté un verger, non, je crois ?
Oui, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité d'acheter 15 arbres fruitiers pour une poignée de milliers d'euros. Et là, je croule sous les pommes. Je croule sous les pommes, sous les poires aussi. C'était les cerises aussi. Enfin, c'est une année à grosse fructification. Alors, qu'est-ce que je fais avec ces poires ? Eh bien, ce verger, je l'ai ouvert à plein de copains. Ça s'appelle le verger de la Renaissance. Et on va ramasser les pommes ensemble et on les transforme ensemble. On se fait de la compote pour l'hiver. On se fait des poires au vin. On se fait des poires, des cerises en bocaux. En veux-tu, en voilà, de la confiture. Alors, j'avais pas vocation à devenir confiturière dans ma vie. Vraiment pas. Voilà pourquoi j'ai voulu partager ça avec plusieurs. Et plusieurs, dans ces plusieurs, certains ont une idée de se dire, mais pourquoi on montrait pas une conserverie? Et qu'on rachèterait pas beaucoup des vergers qui sont autour de notre petite ville, qui ceinturent notre petite ville de Joigny dans l'Yonne. Et pour développer finalement un apport en différents fruits tout au long de l'année et les transformer collectivement et les mettre à disposition des uns et des autres. Voilà, donc ça c'est un petit projet politique qui à la base part de quoi de vouloir sauver un bout de terre entre deux grandes cultures pleines de glyphosate et de sales produits nicotinoïdés. Et très franchement, voilà, ça fait du bien, ça nous donne des idées et en plus cet hiver on m'a mangé des compotes.
De la compote maison à la création d'emplois, le chemin est encore très long. Quand
non,
même.
On va y arriver.
Certains voudraient dire une année. Non,
on va
la question de fond là aujourd'hui, c'est de transformer l'économie et de dire comment on peut recréer de la croissance autrement, puisqu'il faut bien à un moment donné trouver de la croissance. Donc si c'est pas par la relance de la consommation des ménages, comme on l'entend tout le temps, ce qui doit être une expression qui vous fait frémir, j'imagine, non?
Mais il y a mille et une solutions pour l'instant de recréer de la croissance. Regardez les secteurs d'activité qui vont être en grande demande de mains, de personnes. Par exemple, si on veut vraiment être autonome alimentairement parlant, il va falloir qu'il n'y ait pas un million de... C'est pas 600 000 paysans qui sont tous à la FNSEA en plus. Il nous faut plutôt 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de personnes qui vont travailler, maraîcher, etc., permaculter, etc. Vous avez tous les métiers d'aide à la personne, d'aide à domicile. Enfin, ça va exploser tout ça puisqu'on a une population qui vieillit et qui a besoin, qui en demande. Il y a mille et une choses à inventer. Moi, je suis pas pour le catastrophisme économique avec juste cette visée là de relancer la croissance par la consommation. On sait très bien que consommation égale destruction des écosystèmes, donc on consomme autrement, c'est-à-dire on consomme acte et on agit en créant nous-mêmes, en faisant preuve de créativité.
Justine Davas, est-ce qu'il y a aujourd'hui des projets qui prouvent qu'il y a un réalisme économique?
Je pense que les conserveries dont tu parlais, Laure, ça c'est un projet d'avenir parce qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire dans nos pays riches. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des déchets. Je ne sais pas si les auditeurs, auditrices ont entendu parler des projets comme Precious Plastic, qui est un projet en open source. On peut trouver des modèles en ligne pour construire sa propre machine afin de broyer du plastique et ensuite on les trie par catégorie de plastique. Il y en a 7 en tout.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces plastiques broyés
Alors après, on peut
en local
les fondre. Si on a une imprimante 3D, alors on peut faire des choses en 3D, mais en fait il y a des tas de petites communautés qui les fondent et qui les fondent dans des moules et qui recréent des objets à vendre. Ou alors, il y a eu aussi dans le cas du Covid-19, invention d'une poignée, d'une surpoignée pour ouvrir les portes avec son coude. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui est utile parce qu'on en a besoin aujourd'hui et qui est fait avec une matière recyclée. Et ça, ben, ça peut totalement rentrer dans un modèle économique. Tout ce qui est attrait aux déchets, finalement, il y a énormément de potentiel.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a de l'innovation économique possible dans ce modèle-là de préservation du climat?
Oui.
Énormément. Alors, vous n'atteindrez pas la rentabilité en 6 mois, hein, c'est sûr, mais il y a tout plein de dispositifs d'aide, de subventions, qui ne demandent que ça, c'est-à-dire d'aller financer des groupes, des associations, des mouvements qui sont un peu innovateurs de ce côté-là.
Ouais, on a un message d'un physicien retraité écolo en Ile-de-France, Jacques, nous dit « Le CO2 n'est pas à l'origine du réchauffement climatique. L'augmentation des températures, c'est dû à l'abattage des forêts, entre autres. Sinon, moi, je plante dès que je peux.
L'abattage des forêts, c'est un largage de CO2. Donc, effectivement, oui, on est d'accord.
Ouais. Ceci dit, sauf que les forêts ont plutôt tendance à augmenter en France. Non,
alors, c'est ce que vous appelez des plantations sylvicoles. Ouais, ok, d'accord.
C'est oui, pas vraiment c'est des forêts mortes.
Ce sont des forêts mortes où on plante des épicéas, des épicéas.
Vous appelez ça des forêts sylvicoles?
Non, des plantations d'arbres. Ouais. Des plantations d'arbres, ce ne sont pas des forêts. Et en plus...
C'est à visée économique, c'est
pas ouais, autre chose. C'est pour rentabiliser.
Pour fabriquer du papier, du
de
bois,
la palette,
pour moindre coût de vente, etc. Et puis, moi, je vis dans un endroit, toute la France, d'ailleurs, tout le territoire français est touché, notamment dans les plantations d'épicéas, par un mini-insecte qui s'appelle le scolyte, et qui vient manger le cambium, c'est-à-dire toute la partie où la sève passe. Ce scolyte a toujours existé, mais il avait des prédateurs comme les pics, etc. Mais il y a moins de pics, donc il y a plus de scolyte. Surtout, il y a moins d'hivers rigoureux. Donc, il se retrouve à se reproduire trois fois au lieu d'une. Et donc, il décime les plantations d'épicéas. Résultat, toutes les plantations d'épicéas, qui sont des investissements, sont maintenant à terre. Et le mètre cube d'épicéas est à 10 euros. Donc, la filière est complètement défoncée. Voilà. Donc, sinon...
Vraies forêts, comment c'est possible si elles n'ont pas de visée économique, alors qu'on a de plus en plus besoin de bois pour construire des choses plus durables et moins à base de plastique, etc.
Alors, on a d'abord, est-ce qu'on a besoin de construire de plus en plus de choses? Vraie question. Hein, parce que je suis désolée, je crois qu'on est tous capés en termes de chaises, de table, c'est bon, je crois qu'on a tous tout ce qu'il faut. Ouais. Par ailleurs, non mais je dis ça
oui,
un peu
le
de manière
réemploi,
rigolote, mais,
ça, oui.
mais je crois qu'on est ok sur la quantité. Ensuite, la question de la forêt, vous réensauvagez, il y a un grand mouvement en ce moment de réensauvagement avec des associations comme l'association là, de protection de la faune sauvage, qui a racheté
qui
des centaines d'hectares.
N'importe qui d'acheter un morceau de terrain.
Voilà, des 300 hectares.
Non pas pour l'utiliser,
crois,
mais pour le préserver.
Dans le Vercors. Et ce sont des hectares de forêt, pour le coup, de moyenne montagne, qui sont totalement sanctuarisés. Aucune activité économique humaine dedans, aucune activité humaine tout court d'ailleurs dedans. On laisse la nature tranquille.
Bon.
Mais ça existe partout. Enfin, moi, j'ai acheté un bout de forêt en Finlande, voilà, parce que j'ai vécu en Finlande. Et c'est vrai que c'est... Et pareil, en Écosse aussi, ils protègent leur forêt nationale comme ça, en les vendant par petits bouts à des individuels. Ça empêche les projets d'investisseurs de se mettre dessus.
Tout ne doit pas être un outil économique. Donc,
et on est bien d'accord qu'on a, nous, la possibilité de le faire en France, parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la SAFER, qui gère la répartition des terres agricoles ou non agricoles, d'ailleurs. Donc ça, c'est parce qu'on est dans un pays structuré, administré, où l'État ne va pas vendre à des Chinois notamment des hectares, des centaines d'hectares pour qu'il y ait une exploitation. Voilà, donc c'est effectivement une possibilité qu'on a de faire et j'invite tout le monde à le faire.
Vous parliez des déchets, c'est quelque chose quand même aujourd'hui de crucial, même si ça n'est pas directement lié au réchauffement climatique. Direction maintenant la Côte d'Ivoire, une ingénieure de formation, Salima Tato, qui a 29 ans, a fondé une start-up qui s'appelle Agribanana. Une start-up qui fabrique des sacs biodégradables en écorce de bananier. C'est une innovation qui se veut à la fois une solution contre la pollution et puis contre la déforestation. Notre reporter Inès Edel Garcia l'a rencontré à l'occasion des rencontres d'Abidjan sur les villes durables.
J'ai dans les mains un sac d'emballage voilà, qui est issu de la transformation du tronc de bananier qui fait environ 20 cm de longueur et 10 cm de largeur. Ma formation m'a permis, voilà, m'a emmené à faire des recherches sur comment lutter contre la pollution plastique. Et cette pollution plastique-là qui occasionne plusieurs maux tels que les inondations. Inondations dues au fait que les voies de canalisation prévues pour les eaux pluviales sont obstruées par les sachets plastiques. Et aussi cette pollution plastique-là a pour effet de favoriser la prolifération des moustiques qui sont à la base des maladies telles que la dengue et le paludisme. Et c'est cela qui m'a poussé voilà, à mettre en place la solution Agribanana.
En Côte d'Ivoire, les sachets plastiques ont été interdits depuis 2013. Du coup, j'imagine qu'il en existe plein de solutions de sachets biodégradables, de sachets à base d'éléments naturels.
Il existe des sacs biodégradables, mais qui sont issus de la transformation du bois. Or, nos sacs d'emballage sont issus de la consommation du bananier. Et beaucoup ne le savent pas, mais le bananier est une plante, voilà, vivace, qui repousse très rapidement en moins d'une année. Et c'est pour cela que nous disons que notre solution lutte efficacement contre la déforestation. Nos produits viennent de la terre et repartent à la terre. Et cela fait notre force. Et aussi, notre consommation se fera en local, donc permettra la création d'emplois. Parce que le bois est importé et le papier qui sert à la conception des sacs d'emballage que l'on retrouve sur nos marchés est issu de l'extérieur.
De quelle manière vous travaillez avec les paysans, les cultivateurs de bananes ?
Eh bien, nous avons une collaboration avec des paysans déjà, voilà, qui ne savent même pas quoi faire de leur tronc de bananier lorsque le bananier est mature, et nous sommes en relation avec eux pour pouvoir récupérer le tronc de bananier et ensuite les transformer. En ce moment, nous travaillons avec un cultivateur dans la région de Sangon, voilà, et nous procédons à l'acheminement des troncs de bananiers sur ces hectares de plantation jusqu'à notre lieu de transformation qui se trouve à Dabou, voilà, pour l'obtention de nos sacs d'emballage qui se fait pratiquement en moins d'une semaine.
À ce jour, en 2020, quels sont les défis que vous devez relever? Quels sont vos projets à venir?
Donc, présentement, nous sommes à la recherche d'investisseurs pour nous permettre d'acquérir une technologie de pointe, des équipements de pointe, voilà, pour passer à une production à grande échelle. Et aussi, nous le savons tous que l'État a mis en place un décret depuis le 22 mai 2013 qui stipule qu'il est formellement interdit de commercialiser et d'utiliser les sachets plastiques sur tout le territoire national. Et c'est pour cela que nous lançons un appel à l'État afin que ceux-ci puissent nous aider, voilà, à développer notre solution et à vraiment toucher, voilà, toute la population ivoirienne. En plus des sacs d'emballage, nous voulons encore produire des sous-produits de la transformation du tronc de bananier, tels que des plateaux d'alvéoles d'œufs, voilà, et aussi des boîtes de carton.
C'était Salima Tato, la fondatrice de la start-up AgriBanana, qui a depuis intégré un incubateur d'Orange. Les prototypes d'ailleurs se sont améliorés, mais la start-up cherche encore des investisseurs pour produire en masse et commercialiser les sacs à grande échelle, parce que là aussi, les petits projets existent, mais à un moment donné, le nerf de la guerre, c'est le passage à l'échelle, qu'on soit du côté de l'écologie ou pas, non, finalement,
oui,
lors
oui. Justine.
Justine Davas, oui. Pardon.
Ça, c'est ce que je vous disais au micro. C'est facile d'interdire les sachets plastiques quand on est un politicien, mais si on ne propose pas de financement pour l'alternative, ben c'est sûr que ça met les gens en difficulté. Donc oui, ben son projet, il me tarde de voir où est-ce que ça va aller. Mais.
Un message de Mickaël qui est à Brazzaville au Congo. Brazza, ce n'est vraiment pas facile d'être écolo dans une famille qui ignore même ce que veut dire le mot écolo. Et c'est vrai que souvent il y a d'autres priorités, ouais. C'est-à-dire l'immédiateté. Ils jettent déchets organiques et plastiques au même endroit. Moi, je les trie avant de les jeter. Blessing est à Bukavu, à l'est de la RDC. Il nous dit, moi je forme les élèves à la protection de l'environnement en installant des jardins scolaires. Les jardins scolaires d'ailleurs ont existé par le passé dans de très nombreux pays à la campagne, et il rapportait en fait des aliments, de la nourriture pour financer l'école, pour financer le salaire de l'instituteur, etc. Et puis Espérant qui est à Kolwezi, toujours en RDC, nous dit, moi dans ma parcelle je n'ai coupé aucun arbre sauvage, voilà. Ceci dit, il en faut beaucoup plus pour avancer dans l'Ornouala.
Mais non, parce que, écoutez, l'action, quoi que vous croyez, quoi que vous fassiez, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. C'est pas moi qui dis ça, c'est Goethe. Et il y a quelque chose d'assez magique, effectivement, dans le fait d'agir, parce que ça fait du bien. C'est comme si on était assis sur un tabouret avec trois pieds. Le premier pied, c'est on soigne la terre, on essaye de prendre soin de son environnement. Le deuxième pied, c'est on prend soin de soi, de son âme d'une certaine façon.
Très honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions collectives, des projets de petits groupes ou individuels ou des façons de consommer différentes qui parviennent à remonter jusqu'en haut pour agir au niveau de la décision politique? Soyons honnêtes.
Moi, je crois tout ce qui va être... alors, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre, Incredible Edible, et en France, ça s'appelle Les Incroyables Comestibles, et ça existe un peu partout dans le monde. Et c'est la reprise de l'espace public pour en faire des jardins comestibles. Tout ce qui va tourner autour du jardin, c'est pas inutile, parce qu'il faut manger, de toute façon. Et on a besoin d'avoir de plus en plus de terres qui vont capter du CO2 et qui vont pouvoir produire de la nourriture. Donc, moi, je pense que ça... que c'est pas inutile. Alors, moi, j'habite à Orléans, en France. Les incroyables comestibles ont commencé comme ça, un peu dans des bouts de jardin, discrètement sur des bouts de trottoir. Et ensuite, la ville s'est dit « Ah, mais en fait, les habitants, ils ont envie de faire quelque chose. » Et ils nous ont donné des bacs. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, avec un camion, ils sont allés poser des bacs en bord de Loire. Ils sont allés poser des bacs dans des quartiers qui sont ultra minéralisés. Ils ont dit « Ben, tenez, voilà, nous, on a fait l'effort. On vous a donné un bac. On vous donne le permis de végétaliser. » Ça existe aussi à Paris. Et ça, clairement, ben oui, parce que la municipalité a vu que les gens avaient envie de mettre la main à la terre et que la production, mais on s'en fiche de combien de cerises ou combien de fraises ou rien, ça fait plaisir et c'est important.
Oui, tout à fait. Et puis, vous parliez de comment on se crante sur le politique et comment le politique va changer un petit peu les lois. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée. Ça dépend qui vous mettez au pouvoir, évidemment. Quand vous avez des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient et que quand vous avez un grand mouvement, les Gilets jaunes, que quelques mois plus tard, on a une convention citoyenne pour le climat, 150 personnes tirées au sort, qui font des préconisations, qui sont des préconisations qu'on connaît depuis 10, 15, 20 ans... On sait ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut qu'on aille marcher dans la rue tous les jours en slip pour dire qu'on veut ça? Non, on sait ce qu'il faut faire. Donc, il faut qu'on change le système politique et qu'on... Il faut. Ça m'énerve de dire...
Les plans de relance, là, des économies telles qu'ils sont pensés pour les mois et les années à venir, vont dans le mauvais sens? Notamment quand on diminuer les taxes sur la production.
Ils sont une occasion manquée d'opérer une bifurcation pour une société moins carbonée et plus équitable.
Ça aurait été quoi la solution, l'occasion à saisir
aujourd'hui? Alors qu'on
nous prévoit quand même dans les mois ou années à venir plus de 11% de chômeurs et qu'on n'est qu'à 8%.
On nous prévoit, si vous voulez y croire, on peut se dire que ce n'est pas ça qui va se passer. Par exemple, vous donnez 7 milliards d'euros à Air France pour qu'elle puisse se relancer, pour qu'ils puissent redécoller et replaner. Mais vous avez qu'à mettre en place un grand plan de bifurcation, de formation de 7 milliards d'euros. Vous envoyez tout le monde qui a envie de faire, de changer de vie, le nombre de personnes qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de trouver leur place et de se poser, de répondre à deux questions. Dans le temps qui me reste, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qui je veux être? Vous mettez de la formation, vous subventionnez pour que les gens retournent à la terre. Je sais pas.
Ce sera le mot de la fin, justement. Le temps qui nous reste, il nous en reste plus. Merci à toutes les deux, Nornou. Voilà. Comment rester écolo sans finir dépressif? Beaucoup de pistes, en tout cas, d'action. Et Justine Davas guide des mouvements zéro pour un futur enfin désirable. C'est publié pour ses deux ouvrages aux éditions Tana. Demain, 7 milliards de voisins, l'enseignement à distance ou apprendre sans aller à l'école ou à l'université. Quelle révolution depuis les confinements de la pandémie? Vous nous contactez au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, le journal sur RFI. Et on se quitte avec un peu de poésie. Zoufris Maracas.
Mon cher, mon ami mon rien, mon ami mon frère, mon ami terrien, mon ami mon cher, mon ami mon rien, mon ami mon frère, mon ami terrien. Je suis sur la terre, je ne demande rien, je suis sur la terre, je ne suis sûr de rien. Bon anniversaire, mon ami mon cher, mon ami mon frère, mon ami terrien. On n'est que poussière dans ce foutu rien. On n'est que poussière, je ne t'apprends rien. Si c'est la misère sur cette foutue terre, faut pas chercher loin.
7 milliards de voisins, c'est fini.